Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Rachel Lamy.
Bonjour.
Deuxième entretien avec vous cette semaine. Vous avez écrit récemment ce livre qui est paru aux éditions Salvator, Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence. Et c'est un peu à ce titre que je vous reçois, jardinière de la paix peut-être.
Merci,
sortir
oui.
des conflits et retrouver cette paix, cette réconciliation. Parfois une réconciliation qui peut être aussi un long voyage intérieur. Et on en reviendra peut-être au cours de cette série qui n'est pas terminée. Alors vous avez aussi, parmi tous les chapitres, fait ce tour de monde. Donc, je cite très vite tous les pays où vous êtes parti. Vous êtes allé en Bosnie, Serbie, Liban, en Israël, en Palestine, au Kenya, au Maroc, au Rwanda, en Afrique du Sud, à la Réunion, Népal, aux Philippines, au Brésil. Alors, un livre que je conseille si l'auditeur devient lecteur, c'est un vrai tour du monde avec des trésors de rencontres. On peut parler des rencontres.
Oui.
Alors, je vous propose dans ce 10 minutes aujourd'hui, un voyage du côté du Liban et exactement près de Beyrouth, où là vous avez eu parmi toutes les belles et grandes rencontres, une vraie rencontre. Voilà, quand ces rencontres sont réussies, elles sont dans la vérité. Et c'est une rencontre, je dirais, une femme et une religieuse assez extraordinaire, humble religieuse. Si je vous cite, si je vous donne le prénom de Sœur Mariam, ça vous dit quelque chose?
Oui, bien
oui.
sûr.
Alors, présentez-nous un petit peu cette rencontre. Et puis la fécondité de la rencontre et de la mission de Sœur Mariam.
Oui. Hein ? Alors, Sœur Mariam à Nour, j'ai pu la rencontrer durant ce tour du monde. Pour la petite anecdote, je lui avais écrit un mail, un message avant, pour savoir si je pouvais aller la rencontrer. Et puis avant mon tour du monde, j'ai fait un petit séjour de quelques jours à Thésée autour de rencontres entre chrétiens et musulmans. Donc Thésée, c'est un lieu en Saône-et-Loire où il y a une communauté de frères. C'est un lieu écuménique. Et il y avait une rencontre chrétien et musulman. Et finalement, je me suis retrouvée dans un groupe de travail avec des jeunes. Et puis, en se présentant, il y a une religieuse qui me regarde avec les yeux écarquillés et qui me dit « Mais c'est vous, Rachel, vous m'avez écrit pour venir me voir au Liban. » Et je suis très contente, on va pouvoir se retrouver bientôt. Et c'était Sœur Mariam à Nour qui était là, à Thésée, dans mon groupe. Voilà pour la petite anecdote. Donc Sœur Mariam, je l'ai retrouvée en effet à côté de Beyrouth. Et pour situer un petit peu son histoire, quand la guerre a éclaté avec sa communauté donc de carmélites et puis les personnes du lieu où elle vivait, ils avaient un collège et un lycée. Et ça a été le dilemme de savoir si ce collège et ce lycée devaient fermer pendant la guerre, en sachant qu'il y avait des chrétiens et des musulmans qui allaient dans cet établissement scolaire et que au moment où la guerre a éclaté, les communautés se sont vraiment divisées en deux parties, avec Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, où les chrétiens qui étaient dans la partie à majorité musulmane ont fui dans la partie davantage chrétienne et inversement. Et il y avait beaucoup de tensions entre ces communautés religieuses et avec l'équipe éducative et les sœurs, le grand dilemme c'était savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre établissement. Et en fait, Sœur Mariam raconte comment elle a dû à plusieurs reprises traverser la ligne de démarcation pour aller chercher des vivres pour la communauté et des médicaments et tout ce qu'il y avait besoin. Et puis, donc on l'appelait Sœur Mobilette puisqu'elle traversait toujours la ligne de démarcation à Mobilette. Et finalement, elle a été discutée avec tous les professeurs chrétiens qui avaient dû fuir, qui avaient rejoint le côté davantage chrétien, pour les interpeller en disant « Nous avons besoin de vous » et eux-mêmes n'étaient pas satisfaits d'avoir fui le lieu où ils vivaient, où ils travaillaient. Et ils ont réfléchi ensemble comment faire pour que ces professeurs reviennent au village et qu'ils soient accueillis par des familles musulmanes et qu'ils maintiennent contre vents et marées comme elle peut le dire, le collège et le lycée ouverts, envers et contre tout. Et là, il y a eu vraiment une énorme force de l'équipe, une force collective, où ils ont tout fait, durant des années d'ailleurs, pour maintenir l'établissement ouvert pendant la guerre. Donc parfois au milieu des bombardements, elle explique que parfois ils ont dû travailler à la lueur des bougies, faire des queues énormes pour aller récolter, chercher de l'eau pour les élèves, que certains professeurs ont reçu des éclats d'obus, mais ils ont maintenu ce lieu envers et contre tout, pour que ce soit un lieu d'espérance et, comme certains ont pu le dire, que ce soit un oasis de paix. C'était vraiment une bouffée d'oxygène au sein de la guerre. Et ce qui a été très fort, c'est que quand Sœur Maria Manour me parlait, j'ai pu rencontrer à la fin de notre rencontre une adulte qui faisait partie de l'équipe éducative et qui a pu après me dire qu'elle-même avait été jeune étudiante dans cet établissement. Et que ça a été pour elle une bouffée d'air énorme et que le fait d'avoir pu vivre cette solidarité avec des jeunes chrétiens et musulmans au plein cœur de la guerre, c'est ça qui l'avait fait tenir pour ne pas tomber dans le désespoir, mais se dire que des ponts étaient possibles, qu'ensemble, ils pouvaient s'entraider, se comprendre. Et tout le travail de l'établissement avec l'équipe éducative, c'était de proposer une éducation à la paix et d'ouvrir des espaces de dialogue, de débat constructif, d'apprendre l'écoute, d'apprendre que chacun pouvait avoir son opinion, et surtout d'apprendre à chaque jeune à être fier de ce qu'il était dans ses origines, avec son bagage culturel, religieux, et de se dire que chacun, avec ce qu'il portait comme bagage, portait une richesse qu'il pouvait mettre au service du groupe, du collectif, et que finalement chacun avait sa pierre à apporter pour construire le monde qu'il voulait créer.
Et construire ce monde dans la diversité.
Dans la diversité, exactement. Et ça a été vraiment un message très fort, d'ailleurs qui moi m'a beaucoup interpellée en écoutant Sœur Maria Manour, de dire comment aujourd'hui nous, par exemple en France, avec la diversité culturelle, la diversité religieuse qui existe en France, comment on aide chaque jeune, non pas à avoir honte de ce qu'il porte comme bagage, d'avoir peur de l'autre, mais comment on aide chaque jeune à être fier de ce qu'il est, fier de son identité, et que collectivement, chacun soit fier de cette identité multiple, et que ces différences soient vues vraiment comme une richesse pour construire la société dans laquelle on vit aujourd'hui et construire l'avenir à partir de cette richesse. Et vraiment de le voir comme quelque chose qui ouvre des portes plutôt que comme un danger.
Justement en évoquant aussi ce passage dans cet ouvrage où on est du côté de Beyrouth avec cette école et puis ce grand miracle qui s'opère, hein, c'est le miracle, cette école d'un oasis de paix, voilà, mais qui a demandé quand même une lutte, une détermination, une persévérance incroyable de Sœur Maria, de toute cette communauté, bien sûr. Oui. On sent aussi toute la richesse aussi de cette écoute qui invite aussi ces jeunes aussi à débattre.
Oui.
À débattre, s'exposer, se dévoiler et s'écouter mutuellement.
Oui.
Ce dont le monde peut-être a besoin.
Oui.
L'écoute mutuelle.
Oui.
et retirer toute peur.
Oui.
Et la peur de l'autre, la peur de cette différence et de cet inconnu.
Mais finalement, c'est par l'écoute qu'on peut déconstruire nos peurs. Et c'est ce dialogue qui est important. Et ça pousse vraiment à se questionner. En tant qu'adulte, on demande aujourd'hui aux jeunes de se respecter entre eux. Comment nous, en tant qu'adultes, on incarne le respect, on inspire les jeunes à suivre un modèle. Comment nous, on donne ce modèle? Est-ce qu'on sait débattre? Est-ce qu'on sait accepter le point de vue de l'autre? Est-ce qu'on sait s'écouter? Est-ce qu'on sait plonger dans la réalité de l'autre, entrer en immersion dans la réalité de l'autre pour comprendre d'où il parle, comprendre ses peurs, ses colères, ses émotions? puisque le but n'est pas d'interdire la colère ou certains ont eu des blessures énormes, mais c'est comment on laisse cet espace pour que tout cela soit déposé et qu'on puisse se comprendre mutuellement et prendre soin les uns des autres collectivement.
Alors, prendre le risque du débat, des débats, ça c'est un apprentissage peut-être aussi pour tous les responsables, je pense aussi à tous les dirigeants peut-être,
oui.
politiques, puisque dans nos pays actuellement, on est parfois en période de débat, et dans les débats médiatiques, plateau, comment on se comporte aussi dans le débat, quelle est l'attitude que l'on peut renvoyer.
Alors, en tout et cas, quel est cet objectif du débat? Est-ce que c'est de convaincre ou est-ce que c'est vraiment de se laisser aussi déstabiliser dans nos certitudes et de se dire que l'autre a quelque chose à m'apporter et a quelque chose à m'apprendre? Est-ce qu'on ouvre un débat pour imposer une réalité, une vérité, ou est-ce qu'on ouvre un débat dans le but de grandir ensemble, un débat constructif?
Ah ben voilà.
C'est toute la différence.
C'est une très belle conclusion pour cet entretien du jour. Rachel Lamy, auteure de ce livre, vous qui avez aussi osé humblement prendre, vous nous le direz demain et les autres jours, prendre ce risque, cette audace d'un tour du monde dans ces nombreux pays que j'ai cités tout au début. Je vous propose de vous retrouver, Rachel Lamy, et j'invite les auditeurs à devenir lecteurs de ce livre qui nous fait véritablement voyager. Addict à l'espoir, et c'est un tour du monde de la non-violence. À demain.
Merci.